C'est l'hiver et déjà se fait sentir votre désir ardent de venir vous réchauffer. Et pour ce faire, quoi de mieux que cette deuxième émission Microsciences de votre site Parlons Peu, Parlons Science.
3 PS pour les intimes.
Bonjour Marion.
Bonjour Jyoti et bonjour à nos chers auditeurs.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un phénomène que certains redoutent, que d'autres attendent, mais que tout le monde connaît. Et oui, vous l'avez compris, nous allons parler du flocon de neige. C'est petit, c'est beau, c'est froid, mais la science dans tout ça. Chers auditeurs, il est l'heure de poser la question qui déjà nous hante tous. Marion, dites-moi, qu'est-ce qu'un flocon de neige ?
Oh, question très sensible. Pour vous répondre, je vais vous expliquer comment se forme un flocon. Tout commence dans l'atmosphère par une rencontre de deux masses d'air. Une première, constituée d'air chaud et humide, s'élève et refroidit lors de cette collision avec la seconde. La vapeur alors se condense.
Petite parenthèse sur la condensation, je me permets Marion. Je tiens juste à rappeler que la condensation est le passage de la matière d'un état gazeux à un état solide ou liquide. Il faut donc distinguer la condensation solide de la condensation liquide.
Merci pour cette précision, Jyoti. Après cette collision entre les deux masses d'air, il y a donc condensation, liquide et solide. Pour que la cristallisation, c'est-à-dire la condensation solide, puisse se faire, l'eau a besoin de se fixer sur une base elle-même solide, lui servant alors de noyau. Il faut savoir que l'eau pure sans base solide peut rester liquide jusqu'à moins 40 degrés, alors qu'en se fixant sur une poussière, elle commence à geler aux alentours de moins 6. C'est donc sur les épaules d'une particule de poussière qu'elle viendra se reposer pour former un cristal.
Ça donne presque envie d'être une poussière. Il y a donc un phénomène de condensation solide qui se fait autour d'une poussière. Qu'en est-il de la condensation liquide ?
Eh bien, la vapeur d'eau forme également des millions de petites gouttelettes. Ce phénomène de condensation liquide s'appelle la liquéfaction. Ces petites gouttelettes, qui n'ont pas trouvé poussière à leurs pieds, parce que vous savez, Jyoti, c'est la course au noyau là-dedans, s'évaporent.
J'en profite pour préciser que l'évaporation, c'est le phénomène inverse de la condensation liquide. C'est le passage de la matière d'un état liquide à un état gazeux.
L'eau repasse donc à l'état gazeux et le processus de condensation solide se répète. Mais cette fois, l'eau peut aussi se fixer sur une autre base solide que la poussière, les cristaux déjà formés. Ce processus se répète encore et encore jusqu'à ce que le cristal devienne assez lourd pour qu'il chute, pour couvrir le toit de nos chaumières.
Mais alors, un cristal et un flocon ? C'est la même chose ?
Alors non, justement, flocon est un terme très général utilisé pour désigner à la fois des cristaux de neige individuels et des amas, des agrégats de cristaux.
Il y a une autre question que je souhaitais vous poser, Marion.
Oui, mais je suis là pour ça, Jyoti.
J'ai bien compris comment se formait un cristal de neige, mais ce qui m'échappe, c'est la complexité et l'esthétique de leur forme.
Ah, mais c'est la magie de Noël ! Enfin, pas que. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le premier à s'être posé la question. Dès le XVIIe siècle, des scientifiques comme Kepler ou Descartes s'étaient penchés sur les formes singulières de ces étoiles de neige. À la fin du XIXe siècle, avec le développement de la photographie, Wilson Bentley a pris les premiers clichés de cristaux qui ont enfin illustré l'immense diversité des flocons. Et c'est au XXe siècle que la technique du rayon X a permis d'observer ce qui n'est pas visible à l'œil nu, à savoir les molécules d'eau s'imbriquant entre elles pour former un réseau cristallin hexagonal. Donc pour répondre à votre question, c'est cette base hexagonale à partir de laquelle se développent les cristaux qui est responsable de cette symétrie.
Et alors comment, en ayant cette symétrie hexagonale en commun, arrive-t-on à obtenir autant de formes diverses ?
Alors pour le moment, les scientifiques justifient cette diversité par la relation entre la morphologie du cristal et les conditions physiques du milieu dans lequel il se forme, plus précisément la température et la sursaturation.
La sursaturation à quoi ?
J'allais vous le dire, la sursaturation, c'est la mesure de l'excès de vapeur d'eau dans l'air quand l'humidité dépasse 100%.
Ah d'accord. Si vous faites glisser votre souris juste en dessous de votre lecteur audio Microsciences, vous aurez un diagramme de morphologie qui illustre parfaitement ce que Marion vient de vous expliquer. Et on observe l'étendue de cette diversité sur ce diagramme et également sur les magnifiques photos de Kenneth Liebrecht, professeur de physique en Californie, qui a très gentiment accepté, après le contact que vous avez eu avec lui, Marion, de nous laisser publier sur 3PS.
Vous pouvez donc voir qu'il existe une multitude de types de cristaux. Certains sont en forme d'étoiles, de plaquettes, voire même en forme de colonnes. Et sachez qu'il est improbable que deux cristaux suivent exactement la même trajectoire dans la masse d'air. Ils subissent donc chacun différentes conditions atmosphériques, et c'est pour cela qu'il est presque impossible d'avoir deux flocons de neige identiques.
Pour conclure, un flocon, c'est unique, c'est un peu comme...
Comme moi.
Pardon ?
Un flocon, Marion, comme moi.
Ouais, d'accord. Ah, bon, oui. En tout cas, merci d'avoir suivi Microsciences. On espère qu'on vous aura donné envie d'aller admirer les flocons si vous avez la chance d'avoir de la neige avec vous pendant cet hiver. Prenez vos photos, envoyez-les nous sur Parlons Peu, Parlons Science. On tenait en tout cas à vous souhaiter
un joyeux Noël,
de bonnes fêtes de fin d'année.
Et à très bientôt.
C'était Microsciences, l'émission radio de votre site Parlons Peu, Parlons Science.